innovation.
Innovation.
Qu'en dira-t-on ?
À l'occasion de la 14e édition de la JNI au Centre de Congrès d'Erance, Cadécole est allé tendre son micro aux différents porteurs et porteuses de projets sélectionnés. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. L'équipe Cadécole a décidé de mettre à l'honneur certains projets dans sa série « L'innovation, qu'en dira-t-on ?». Dans cet épisode, nous vous parlerons du projet « C'est dans ma nature » de l'Académie d'Erance autour du parcours d'enseignement au développement durable. Pour présenter ce projet, nous accueillons sur notre plateau Sébastien Lafont, vous êtes le principal du Collège de l'Argonne, bonjour.
Bonjour.
Moïse Poisson, vous êtes le CPE de l'établissement, bonjour.
Bonjour à vous.
Et Alix Tefaut, professeur d'histoire-géographie, donc l'une des quatre professeurs chargés du développement durable. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le projet d'initiation au développement durable mis en place au Collège de l'Argonne consiste à mettre en place un enseignement obligatoire de 2 heures hebdomadaires au développement durable de la 6e à la 3e. Dans ce projet, l'ensemble des élèves du collège est réparti en 4 groupes, 4 maisons, toutes classes confondues. Alors, cette idée des maisons me fait penser instantanément à Poudlard. Est-ce que ces maisons vous ont permis de sensibiliser des élèves plutôt réfractaires à la thématique du développement durable, Monsieur Poisson ?
Oui, vous avez raison aussi de penser à cette école qui accueille des sorciers dans un certain nombre de romans. Donc l'idée des 4 maisons, elle vient entre autres de ça. Et effectivement, le côté collaboratif d'amener des élèves de la 6e, 5e, 4e et 3e à collaborer ensemble pour travailler autour des 17 objectifs de développement durable. On commence, même si ça fait 8 mois qu'on a commencé l'expérimentation, à voir les prémices d'un mouvement dynamique et très positif. Donc c'est un atelier qu'on remet à jour régulièrement et qui est assez passionnant et efficace.
Alors, Monsieur Lafont, pourquoi avoir décidé de mélanger les élèves de toutes les classes ? Quelle est la valeur ajoutée ?
L'éducation au développement durable, ce n'est pas une discipline. C'est un champ dans lequel on peut travailler toutes les disciplines et amener à un changement de posture. Et ce changement de posture, finalement, ne pouvait avoir lieu qu'en mixant les élèves de la 6e à la 3e. Et le constat aujourd'hui est qu'un élève de 6e peut formuler une explication à un élève de 3e et cela modifie fortement le climat de l'établissement.
Madame Tefaut, comment éviter par exemple qu'au sein de ces maisons, il n'y ait que certains élèves qui travaillent et d'autres qui ne font rien ?
C'est une grande question. Hein. Pour les enseignants, c'est un défi du quotidien, maison ou pas maison. Mais je pense que l'apport de l'EDD, l'éducation au développement durable, c'est qu'on sort les élèves du contexte de la classe habituelle. Et finalement, les enjeux de mise au travail, ils sont parfaitement différents. Lorsqu'on est dans les marais de Germont, en bottes et sous la pluie, à observer la biodiversité, il est plus question de qui travaille et qui ne travaille pas, puisque en fait tout le monde est là, donc tout le monde travaille. La question des maisons, finalement, et l'organisation l'éducation au développement durable, elle vient bouleverser les représentations qu'on a et du travail scolaire et du travail en classe.
Est-ce que vous voulez rebondir, rajouter des éléments ?
La collègue parle de changement de posture pour les élèves, aussi pour les enseignants. Ces changements de posture amènent des interactions entre pairs pour les élèves, mais aussi face à l'enseignant ou avec l'enseignant, et non plus face, comme je viens de le dire, dans des expérimentations qui sortent les élèves de leur quotidien. On n'est plus aujourd'hui avec des enseignants en classe en autobus et qui font uniquement du descendant, mais le parcours d'éducation au développement durable et la manière dont on l'a construit permet véritablement de changer des postures et c'est véritablement intéressant.
Je rebondirais, je qualifierais aujourd'hui l'établissement de Grand Pré comme un collectif apprenant. C'est vraiment pour moi le résumé de la plus-value du parcours ODD sur l'établissement.
D'accord, alors c'est très intéressant que vous touchiez justement à la question du programme, parce que est-ce que vous avez conçu un programme d'études au développement durable, comme c'est une matière, comme vous l'avez dit, pluridisciplinaire ?
En introduction, je laisserai la parole à ma collègue enseignante, mais c'est l'ambition du projet. En tout cas, c'est ce vers quoi nous pouvons tendre, puisque l'idée est de créer un parcours de 4 ans, progressif, qui va amener une collégienne ou un collégien sur l'ensemble de sa scolarité à avoir une plus-value par rapport à l'apport disciplinaire autour des enjeux de développement durable. Donc finalement, dans la prospective et la construction du parcours, on est dans une nécessité de création de programmatique. Est-ce que à la fin de l'expérimentation, dans 5 ans, nous aurons réussi à mettre en place un parcours et un programme qui pourrait être réplicable? Rendez-vous dans 5 ans.
Oui, l'idée, c'est de mettre en exergue les compétences transversales qui pourront être réexploitées. C'est un projet ambitieux, mais on aimerait que le parcours expérimental d'éducation au développement durable puisse être reproductible. Alors, peut-être pas dans son entièreté et ni dans toutes ses facettes telles qu'on les déploie au Collège de Grandpré, mais on aimerait pouvoir extraire de nos pratiques des fils conducteurs au niveau des compétences et des apprentissages qui auront été travaillés afin que cette structure puisse être réemployée par d'autres établissements.
C'est l'objectif terminal finalement du parcours expérimental, produire un référentiel avec des repères de progressivité par niveau et par discipline.
Donc rendez-vous dans 5 ans pour
exactement
le premier bilan. Alors Madame Tefo, comment se déroule exactement une intervention?
Alors, il n'y a pas vraiment d'intervention type, puisque nous sommes 4 enseignants de matières différentes qui proposons en fait une variété d'interventions qui se sont révélées être multiples en classe, en dehors de la classe, tout au long de cette année. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est que sur une période entre 2 périodes de vacances scolaires, il y a environ 6 à 7 semaines. Donc, en règle générale, sur ces 6 à 7 semaines, il y a 4 séances programmés sur lesquels les 4 groupes vont tourner, c'est-à-dire que chaque groupe va avoir une répétition d'une séance par enseignant. Alors après, tous les groupes ne font pas forcément exactement la même séance, mais en tout cas, ils vont travailler toujours les mêmes compétences et la mise en application du même fonctionnement, même si le résultat diffère d'une séance à l'autre. Il va y avoir également sur ces 6 séances régulièrement une sortie ou la venue d'un intervenant, ce qu'on peut appeler des séances exceptionnelles, ce qui fait que les élèves, en fait, sur les 6 séances, vont avoir 6 interactions et 6 temps qui vont être parfaitement différents, puisque une semaine, il va y avoir la compagnie de danse contemporaine qui vient les faire danser autour des questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. La semaine suivante, ils vont aller compter les vers de terre dans un protocole expérimental à base de moutarde pour les faire sortir de la terre. La semaine d'après, ils vont compter les araignées dans l'établissement. Et la semaine d'après, ils vont apprendre à mieux s'alimenter. Voilà, donc c'est vraiment un parcours qui est divers, varié, enrichissant et qui ne trouve pas de monotonie.
Et comment vous avez fait pour mélanger les objectifs du développement durable de l'ONU aux acquis fondamentaux, par exemple comme le français, les mathématiques?
On pourrait prendre plusieurs actions en exemple, mais les 17 objectifs de développement durable se retrouvent dans le référentiel de chaque discipline. Donc finalement, nous n'avons qu'à nous baser sur ce référentiel et imaginer tout autour. On est parti des appétences des uns et des autres, mais pour parler de l'exemple que vous évoquez, un travail autour d'un concours d'éloquence qui se passe avec le campus Sciences Po Reims, où les élèves vont avoir à la fois un apport disciplinaire où toutes les classes avec leur enseignante de français qui fait pas partie des enseignants de développement durable vont avoir un apport autour de l'oralité, la prise de parole, l'éloquence, qu'est-ce que c'est, les règles, etc. Et ensuite, dans le parcours de développement durable, vont avoir à travailler, à sélectionner une partie de leur groupe qui vont avoir à répondre à la question en quoi il est important que la jeunesse s'engage pour préserver la planète. Et l'ensemble du parcours va les amener, après une visite du campus de Reims, à se produire sur scène face à leur père et un jury de sciences polémiques. Et là, alors sans rentrer dans les détails, mais quand on parle de fondamentaux, le français, lire, prendre la parole, on est en plein dedans.
L'oralité vient sanctionner finalement le diplôme du bac avec le grand oral. Donc là, on est vraiment dans l'acquisition de compétences disciplinaires.
D'accord. Dans vos différentes interventions, vous avez mentionné Sciences Po Reims, d'autres intervenants. Je voulais justement revenir sur la question de comment vous mettez en place la collaboration entre les intervenants extérieurs et les enseignants du collège. Monsieur Poisson.
Ça se construit au jour le jour. Le projet, on est dans le huitième mois d'expérimentation, mais il s'est imaginé depuis un an. Après avoir identifié des partenaires sur le territoire proche de l'établissement, l'équipe a eu l'audace d'aller les chercher, de les contacter, de les amener à réfléchir avec nous à ce parcours, à ses fondements, aux manières de mettre en œuvre les choses. Ils nous ont donné leur point de vue, un point de recul vraiment indispensable dans la création d'un tel parcours, mais ils nous ont aussi ouvert leur réseau. Ils sont aujourd'hui, ils peuvent être, pas tous, intervenants en direct avec les élèves, mais ils peuvent être aussi partenaires financiers. On monte des appels à communs ensemble. On a la chance d'avoir pour marraine du parcours Christine Rollard, qui est aranéologue, enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle aussi, aujourd'hui, est intervenue. Est venu face aux élèves, a fait une conférence à destination cette fois-ci du grand public, ce qui nous amène à ouvrir les portes du collège et à essaimer qu'on essaye de mettre en place à l'extérieur de l'établissement et on le construit tous ensemble. C'est des réunions régulières, on va dire qu'on a un comité de pilotage interne qui va se réunir de manière bimensuelle et on a un comité de pilotage où là sont présents les partenaires qui va se réunir une à deux fois par an, toujours dans un esprit de prospective pour prévoir au mieux ce qui va advenir. Mais cette année, nous avons des partenaires qui nous ont amené des projets, qui nous ont amené des financements, qui nous ont amené des idées pour cette année qu'on a déjà mise en œuvre et pour les années prochaines.
Alors même si le projet est récent, voyez-vous déjà des effets positifs, que ce soit en termes de climat scolaire, d'apprentissage ou d'engagement écologique, Monsieur Lafont ?
Alors au niveau du climat scolaire, passer le temps de l'impression, on a souhaité confirmer le ressenti qui a été finalement assez rapide avec nos indicateurs de vie scolaire. Et les résultats sont vraiment édifiants, hein, où le nombre de punitions et sanctions est passé de mémoire de 15 à 16 à 2. Voilà. Donc on vit vraiment dans un climat scolaire apaisé et ça a été vraiment d'une extrême rapidité. L'explication qu'on fait à la lecture de ces résultats, c'est vraiment le fait que finalement les individus entre eux ont une autre attitude et cette culture de l'attention, des interactions rejaillit directement sur le climat scolaire.
Et après, peut-être pour compléter, le parcours et amène vraiment à travailler en transversalité. Et pour répondre à l'aspect, est-ce qu'on commence à avoir des indicateurs en termes de développement durable au sein de l'établissement, de changement de pratique, les choses grandissent petit à petit. Il y a des premiers échanges qui ont été faits avec la restauration scolaire pour amener des modifications. L'ensemble des déchets sont récupérés et valorisés. Il y a un certain nombre de choses qui sont inhérentes à chaque établissement, mais on se rend bien compte, sans aller trop loin, que l'ambition qu'on porte depuis le début de l'année amène des personnels et des gens autour de l'établissement à se saisir de ces enjeux pour s'y investir. Donc oui, c'est certain que on est dans un établissement où il n'y a pas de produits phytosanitaires pour gérer les plates-bandes, mais il y a surtout, je dirais, un esprit réflexif qui est en train d'évoluer.
Les commandes, par exemple, pour la restauration, on a créé quelques journées avec des produits locaux et bio, avec finalement un approvisionnement à 20 km autour de l'établissement. Et ce type d'événement sera amené à être dupliqué, amplifié et partagé et décidé avec l'ensemble de la communauté éducative.
Donc ma dernière question, c'est si le projet sera reconduit l'année prochaine et quelles pistes justement d'amélioration voyez-vous pour la rentrée 2024 ?
Alors le projet sera reconduit l'année prochaine, ça c'est une certitude, dans des modalités horaires similaires. Les pistes d'amélioration, c'est finalement la synergie qu'on a pu créer au sein de l'établissement, de continuer à la diffuser sur l'ensemble du territoire en mobilisant encore un peu plus les partenaires. Et puis, en fédérant les écoles primaires, selon moi, du secteur.
Après, dans ma perspective d'enseignante, les pistes d'amélioration, en fait, elles, ce sont des pistes d'amélioration comme dans la reproduction de toute séance ou séquence d'éducation, c'est-à-dire une séquence didactique. On a fait une expérience, on a des retours d'expérience qui sont très positifs. Il y a aussi des choses qui peuvent être améliorées. On peut modifier une approche, modifier une explication, modifier la façon dont on amène un sujet pour qu'il soit mieux compris, mieux intégré, pour que dans le déroulé de la séance, ensuite, ça se fonctionne sans encombre. On a aussi remarqué qu'il y a des éléments qui pourront être apportés par le collège, par exemple fournir un certain matériel qui pourra être réemployé par les élèves pour le DD. Tout ça, c'est des choses, en fait, comme on a découvert ce parcours et qu'on l'a mis en œuvre pour la première fois, bah, y a un certain nombre d'éléments qui sont mineurs et périphériques qui peuvent être améliorés pour développer davantage ce projet.
Et un des éléments très vite qui va permettre d'aller dans ce sens, c'est l'évaluation du projet, c'est le comité de pilotage, c'est continuer de travailler à contextualiser l'ensemble des apprentissages en se recentrant sur nos objectifs, et on est bien parti.
Alors on espère avoir des bonnes nouvelles du projet bientôt. Vous voulez rebondir ?
Qu'on a la chance de représenter l'Académie au niveau national, puisque les élèves du Collège de Grandpré sont sélectionnés pour participer à la finale du prix de l'éducation au climat le 31 mai prochain à l'Académie du climat à Paris. Voilà.
Merci beaucoup. Alors notre entretien touche à sa fin malheureusement. Merci à vous d'être venus, Sébastien Lafont, Moïse Passon et Alice Tefaut, pour le projet « C'est dans ma nature » de l'Académie de Reims. Vous pouvez retrouver les informations du projet dans les ressources de cet épisode sur le site Cadécole ou sur le site internet de la JNI. Nous vous invitons à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. À la production, Nicolas Morales, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.